Je crains qu'il y ait la tentative de trouver un point faible parmi ses interlocuteurs et que la France ait été choisie comme point faible précisément quand il regarde l'évolution des déclarations de Chirac depuis le mois de janvier, n'est-ce pas ? En 8 ou 9 mois, il est passé de ce qu'il dit dans sa déclaration à l'île longue. Les pays qui veulent se doter d'armes non conventionnelles doivent savoir que nous avons les moyens de riposter et que ces moyens peuvent être des frappes conventionnelles, mais ce peut en être d'autres. Le message était clair. Si l'Iran n'arrête pas l'enrichissement de l'uranium, nous allons frapper. L'Iran n'a pas arrêté l'enrichissement de l'uranium et heureusement, on n'a pas frappé. Ensuite, la France a participé à cette résolution du Conseil de sécurité disant si le 31 août, l'Iran n'a pas arrêté, suspendu son enrichissement, il s'expose à des sanctions. Le 31 août est passé et le 15 septembre ou le 16, je ne sais plus, Chirac a dit non, 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 pas de sanctions, il faut négocier. Ça représente, je crois, en 9 mois, une évolution de la pensée qui est tout à fait impressionnante. Et il est possible que les Iraniens se soient dit que le maillon faible était là, qu'il fallait essayer de séparer le maillon faible des autres.
Donc diviser quelque part pour mieux faire avancer leurs idées.
Absolument, absolument. Et je pense que soit ce sont des négociateurs redoutables, des gens extrêmement intelligents, qui ont toujours géré ce dossier avec beaucoup de finesse, même si quelquefois la finesse n'est pas entre les mains de M. Ahmadinejad. Mais M. Ahmadinejad a, par rapport aux autres, un sens du réalisme qui est extrêmement fort, puisqu'il semble que, dès le début, il a dit à ses collègues iraniens, « Vous êtes des imbéciles, vous ne savez pas y faire. » Ces gens-là, en parlant des Occidentaux et même des Russes, n'oseront jamais faire quoi que ce soit contre nous. Il faut y aller, il faut faire ce qu'on a envie de faire, sans du tout se préoccuper de leur rodomontade, de leurs menaces, etc. Et la réalité est en train de lui donner raison.
Est-ce que quelque part, cette question du nucléaire iranien n'est pas une partie perdue d'avance, je dirais, pour les Européens, pour les États-Unis, et que finalement, ils y arriveront, les Iraniens, à cet enrichissement et finalement à produire du nucléaire, peut-être pas non plus seulement civil. Et doit-on vraiment craindre ce nucléaire iranien ?
Ils auront certainement des armes nucléaires si on ne les empêche pas. Et effectivement, un risque, c'est d'aboutir à cette situation que, petit à petit, les Iraniens vont endormir un peu tout le monde, l'affaire sortira de l'actualité jusqu'au jour, c'est pas demain la veille, jusqu'au jour où ils disposeront effectivement d'une arme. Nous sommes pour le moment dans une situation dans laquelle je crois qu'il n'y a pas, ou alors très peu, elles sont totalement irréalistes. Il n'y a pas de bonne solution, il n'y en a que des mauvaises. L'une, ce serait de taper sur l'Iran, l'emploi de la force, qui serait une catastrophe. La deuxième, c'est de laisser l'Iran acquérir des armes nucléaires, qui serait une catastrophe encore pire. Parce que, n'est-ce pas, d'une part, pour n'importe quel pays, plus le nombre des États qui ont des armes augmente, plus le risque est grand que l'un d'entre eux s'en serve. Et là, le risque est encore beaucoup plus grand. Parce que récemment, Moubarak, le président égyptien, a parlé d'un la reprise d'un programme nucléaire par l'Égypte. Les Saoudiens ne disent rien, mais est-ce qu'ils peuvent accepter que l'Iran devienne la grande puissance régionale? Que ferait la Turquie? Que ferait la Syrie? Je pense que la perspective de voir un Moyen-Orient dans lequel 5 ou 6 pays disposeraient d'armes nucléaires n'est pas une perspective qui soit très réjouissante.